Alors, imaginez un peu la scène. On est en 2022. L'Europe, frappe un grand coup. Elle vote la fin des voitures thermiques pour 2035.
C'était un signal très fort, très audacieux.
Exactement, un signal pour le climat. Et puis, à peine 3 ans plus tard, fin 2025, patatras, machine arrière. On assouplit la règle, on rétropédale.
Un revirement assez spectaculaire.
C'est le mot. Et la question, elle est simple. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision aussi énorme qui engage toute une industrie et puis faire volte-face aussi vite?
C'est une vraie question de crédibilité.
Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on a mis la main sur une analyse assez singulière. Elle a été écrite à chaud en janvier 2026 par un ingénieur consultant genevois, Pascal Rulfi.
Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je me souviens bien.
Pas du tout. Pour expliquer ce qu'il voit comme une sorte de déraillement technocratique, il utilise une analogie historique, disons explosive. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment plonger là-dedans, décortiquer son raisonnement pour voir ce qu'il reproche vraiment aux institutions européennes, quel impact ça a eu sur l'industrie et ce que cette comparaison un peu folle nous dit au fond sur notre époque.
C'est un programme chargé.
Alors, par où est-ce qu'il commence? Il dresse un portrait de l'Europe comme une super usine à fabriquer des normes. Surtout pour l'automobile.
C'est son point de départ, oui. Il nous rappelle que cette inflation de règles, ça ne date pas d'hier. On a tous entendu parler des normes anti-pollution euro.
Ah oui, Euro 1, Euro 2.
C'est ça. Ça a commencé doucement en 92 avec Euro 1, et depuis, c'est une course sans fin. Euro 2, 3, 4, 5, 6, et maintenant la 7 qui arrive cette année.
L'intention de départ est bonne, on veut des voitures moins polluantes.
L'intention est louable, bien sûr. Et au début, ça marchait plutôt bien. Pour passer les premières normes, il suffisait de technologies simples, maîtrisées, l'essence sans plomb, le pot catalytique.
Oui, mais j'imagine qu'on ne peut pas diviser les émissions par deux tous les 5 ans, juste avec un nouveau pot d'échappement. À un moment, ça doit coincer.
C'est exactement là qu'il met le doigt. À partir des normes Euro 5 et surtout Euro 6, les seuils deviennent si bas que les ingénieurs doivent se transformer en magiciens.
Ah.
Et c'est là qu'apparaissent des solutions techniques beaucoup plus, disons, alambiquées. Il cite l'AdBlue, par exemple, ce liquide qu'il faut rajouter tout le temps dans les diesels. Mais le cas d'école qu'il développe, c'est le downsizing.
Le fameux downsizing. Alors, l'idée, c'était de remplacer les bons vieux gros moteurs par des tout petits moteurs pour qu'ils consomment moins. C'est bien ça, hein?
Sur le papier, c'est génial. On prend un petit moteur 3 cylindres, on lui colle un turbo pour qu'il ait de la pêche, et hop, sur le banc d'essai du laboratoire, les chiffres sont incroyables.
Sauf que...
Sauf que le tableau qu'il dresse est beaucoup moins rose. Dans la vie de tous les jours, quand on appuie un peu pour doubler un camion, ces petits moteurs y cravachent et y consomment bien plus que promis.
D'accord.
Et pire encore, il soutient qu'ils se sont révélés structurellement fragiles.
Et c'est de là que viennent toutes ces histoires d'horreur qu'on a entendues de moteurs qui cassent à 60 000 km.
Tout à fait. Il parle de catastrophes industrielles et il cite des noms. Peugeot, Citroën, Ford, Renault, Volkswagen, des géants, hein?
Ah oui, tout le monde y est passé?
Ils se sont retrouvés avec des problèmes de fiabilité en série sur ces moteurs. Pour le consommateur, c'est le cauchemar. Panne à répétition, des factures de réparation astronomiques. L'auteur voit ça comme une impasse technique totale, née de cette course folle pour satisfaire la norme, à tout prix.
Et cette spirale normative, elle ne s'est pas arrêtée à la pollution. Il étend sa critique à la sécurité, j'ai vu ça?
Oui, il enchaîne directement. Il prend l'initiative Vision Zéro.
Zéro mort sur les routes d'ici 2050?
C'est ça. Il qualifie ça de tartufferie, de vœux pieux, complètement déconnecté de la réalité. Pour lui, le risque zéro n'existe pas. Il prend une image très forte.
Laquelle?
Même pour la mission Apollo 11, le projet le plus contrôlé de l'histoire, les ingénieurs n'estimaient les chances de succès et de retour des astronautes qu'à 50%.
50%.
Alors viser le 100% sur la route, avec des millions de conducteurs, ça lui paraît absurde.
Et en pratique, dans nos voitures, cette vision zéro, elle se traduit comment?
Par une avalanche d'obligations. Il prend l'exemple de la norme GASR2, qui est devenue obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2024. Et là, c'est la foire aux bêtises électroniques.
C'est-à-dire?
Concrètement, ça veut dire que la voiture bip et corrige sa trajectoire en permanence. Elle freine toute seule si elle croit que vous êtes distrait. Elle lit les panneaux à votre place. Elle enregistre tout ce que vous faites. La conséquence, selon son analyse, c'est qu'on se retrouve avec des véhicules qui sont des chars d'assaut fragiles. Ils sont de plus en plus lourds, complexes, bourrés d'électronique qui peut tomber en panne et donc hors de prix.
Ce qui est une contradiction totale avec les objectifs de sobriété et de lutte contre le réchauffement. On fabrique des voitures plus lourdes et plus chères pour sauver la planète ?
C'est toute l'ironie de la situation. C'est le paradoxe total, quoi. Et le comble, nous dit l'auteur, c'est qu'après avoir poussé cette logique jusqu'à l'absurde, l'Europe se met à regarder avec intérêt les kei-cars japonaises.
Les micro-voitures ?
Exactement. Très légères, petits moteurs, tout l'inverse de ce qu'on a encouragé pendant des années. Pour lui, c'est l'aveu d'échec ultime.
D'accord. Donc, on a le constat technique. RE, des normes toujours plus dures, qui mènent à des impasses industrielles et à des contradictions. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui.
Pour que sa critique porte, il ne s'arrête pas là. Il va chercher une comparaison dans l'histoire qui, au premier abord, semble n'avoir aucun rapport. Et là, son analyse bascule.
C'est le moment charnière de son texte, en effet. Il nous emmène en Chine. À la fin des années 50, Mao Zedong lance ce qu'on a appelé le « grand bond en avant ».
Le grand bond en avant.
C'était une politique économique ultra-volontariste pour que la Chine rattrape l'Occident en un temps record. On collectivise l'agriculture de force, on lance une industrialisation massive.
Et il y a cet exemple très connu.
Les petits hauts fourneaux, oui. L'objectif complètement délirant était de dépasser la production d'acier de la Grande-Bretagne en demandant à chaque village de construire son propre petit fourneau.
Et je suppose que ça n'a pas vraiment fonctionné comme prévu.
Pas vraiment, non. Les paysans, qui n'y connaissaient rien, faisaient fondre tout ce qu'ils trouvaient, y compris leurs propres outils, leurs marmites.
Oh là là!
Le métal qui en sortait était de si mauvaise qualité qu'il était inutilisable. C'était une politique décidée par une bureaucratie à Pékin, complètement coupée des réalités du terrain. Et le résultat de ce grand bond en avant, ce n'est pas le progrès, mais la famine la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité.
Bah oui, quand même.
On parle de 30 à 70 millions de morts.
C'est un contexte absolument terrible. Et au milieu de ce désastre, il y a un épisode bien particulier qu'il choisit pour construire son analogie.
Oui. C'est la fameuse « campagne des quatre nuisibles ». Le pouvoir central décrète qu'il faut éradiquer quatre espèces. Les moustiques, les mouches, les rats et…
Les moineaux.
Les moineaux.
Pourquoi les moineaux ?
Le raisonnement était d'une simplicité enfantine. Les moineaux mangent les graines dans les champs, donc pour avoir de meilleures récoltes, il faut tuer tous les moineaux.
Une logique implacable. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris ?
La consigne a été donnée à des centaines de millions de Chinois de faire du bruit. Taper sur des casseroles, des gongs, crier, partout, tout le temps, pour empêcher les moineaux de se poser.
Sans arrêt.
Jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Épuisés, les oiseaux finissaient par tomber du ciel. Les affiches de propagande de l'époque sont sidérantes. On y voit des familles entières, le sourire aux lèvres, attaquant ces petits oiseaux. Et la campagne a été un succès total. Le moineau a quasiment été éradiqué de Chine.
D'accord, ils ont réussi à éliminer les moineaux. Mais un écosystème, c'est un équilibre fragile. Quel a été l'effet de bord, l'imprévu qui a tout fait dérailler ?
Un effet de bord absolument catastrophique. Ce que les planificateurs de Pékin n'avaient pas prévu, c'est que les moineaux ne mangent pas que des graines. Ils se nourrissent aussi d'insectes, et notamment de criquets.
Ah, je vois venir la suite.
Sans leur principal prédateur, les populations de criquets ont explosé. Elles ont déferlé sur le pays, dévorant les récoltes. La campagne anti-moineaux n'a pas amélioré la situation. Elle a considérablement aggravé la famine.
C'est terrible.
Et c'est ça le cœur de l'analogie de l'auteur.
Attends, la comparaison est hyper violente. Comparer les décisions de Bruxelles à la Chine de Mao, qui a fait des dizaines de millions de morts. Même l'auteur dit que c'est excessif. Est-ce qu'il ne se tire pas une balle dans le pied avec une image aussi forte ?
C'est une question essentielle et il prend bien soin de le préciser. C'est très important. Le parallèle ne porte absolument pas sur l'intention ni sur la brutalité du régime.
D'accord.
Il est très clair là-dessus. Les technocrates européens ne sont pas des tyrans sanguinaires. Ils veulent bien faire. La similitude qu'il pointe, elle se situe uniquement dans le processus, dans le mécanisme de décision.
Le mécanisme ?
Oui. Dans les deux cas, on a une décision prise de manière centralisée, par une autorité qui pense savoir, fondée sur une hypothèse simpliste. Les moineaux mangent les graines, tuons les moineaux. Ou les voitures thermiques polluent, interdisons-les. Et qui ignore totalement la complexité du système sur lequel elle agit. Les effets en cascade, les conséquences imprévues.
Donc, si je suis bien son raisonnement, on décrète un objectif, la fin du thermique en 2035, parce que ça sonne bien, c'est noble, mais on le fait sans mesurer l'impact réel sur l'industrie, le coût pour les consommateurs, les infrastructures, les matières premières, ou même l'envie des gens d'acheter ces voitures. Hein.
C'est exactement son argument. Il explique que cette décision a placé les constructeurs européens dans une situation impossible. D'un côté, on leur demandait de continuer à investir des milliards pour rendre les moteurs thermiques un peu moins polluants, pour passer cette norme Euro 7.
Et de l'autre,
on leur ordonnait de tout miser sur une technologie électrique pas encore totalement mature et rentable. Ils devaient courir deux lièvres à la fois.
Pendant ce temps, les consommateurs, ils font quoi ?
Eh bien, face à l'incertitude et au prix qui flambait, ils ont fait ce que les gens font toujours dans ces cas-là. Ils ont attendu. Le résultat, selon ses mots, c'est que l'Europe est en train d'assassiner méthodiquement l'une de ses dernières grandes industries.
D'assassiner, carrément. Ce qui amène une autre question. Qui sont les gens qui prennent des décisions avec un impact aussi lourd ?
Et c'est là qu'il pose une question qui fâche. Il s'interroge sur le profil des décideurs, en particulier au Parlement européen. Il a fait un travail simple, hein. Il est allé sur le site du Parlement et a regardé les CV disponibles des députés.
Et le tableau qu'il dresse est...
assez interpellant. Pour la France, au moment où il écrit, sur 80 députés, seuls 22 ont un CV renseigné. Et sur ces 22, il n'en trouve qu'un seul avec une formation scientifique.
Un seul.
Pour l'Allemagne, sur 96 députés, il en trouve 3, dont 2 médecins. Pour l'Italie, 4 sur 76, là aussi avec 2 médecins.
Les chiffres sont parlants, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment ça le cœur du problème ? Après tout, on ne demande pas aux politiques d'être des ingénieurs, mais de bien s'entourer, de consulter des experts, non ?
Bien sûr ! Mais il ne dit pas que les députés sont incompétents dans leur domaine. Droit, économie, sciences politiques. Ce qu'il soulève, c'est une question de culture et de méthode.
C'est-à-dire ?
Est-ce qu'une assemblée composée quasi exclusivement de profils littéraires ou juridiques a les bons outils pour évaluer de manière critique la faisabilité technique d'une norme, pour comprendre les avertissements des ingénieurs, pour saisir les ordres de grandeur et les contraintes physiques d'une transition aussi massive ?
Je vois.
Son analyse suggère que non, et que la décision finit par être prise sur des bases plus idéologiques que scientifiques. Un peu comme pour les moineaux, finalement.
Donc, au-delà de la critique au vitriol, son texte est aussi un appel à faire les choses différemment. Ce n'est pas juste un pamphlet anti-européen.
Non, pas du tout. Il s'est décrit même comme un Européen convaincu. Mais il appelle à repenser en profondeur le fonctionnement de l'Union. Pour lui, l'innovation, le progrès technique, ça ne se décrète pas depuis un bureau à Bruxelles comme un plan quinquennal soviétique.
Quelle Europe il imagine alors ?
En gros, une Europe qui arrêterait les grands plans sur le papier et qui ferait un peu plus confiance au terrain, à l'ingéniosité des entreprises, au bon sens des gens. Une Europe qui chercherait la puissance et l'indépendance, plutôt que de s'enfermer dans des réglementations qui, selon lui, l'affaiblissent.
Son avertissement final est donc assez clair. Même si, bien sûr, le contexte n'a rien à voir avec la Chine de Mao, il nous dit que des mécanismes de décision bureaucratique, quand ils sont coupés du réel, peuvent avoir des conséquences tout aussi désastreuses pour notre prospérité.
C'est exactement ça.
Et en refermant cette analyse, on se dit qu'elle se concentre sur l'automobile, mais que la critique pourrait sans doute s'appliquer ailleurs. Ça laisse une question en suspens. Dans quels autres secteurs, aujourd'hui, est-ce que des plans très bien intentionnés, décidés de manière centralisée, risquent d'entrer en collision avec la complexité et les frictions du monde réel ? C'est une pensée à garder en tête.